Alors bonsoir, c'est heureux le fil d'Ariane, c'est-à-dire merci, qui intervient une fois par mois dans le Canu Info du mercredi. Merci d'ailleurs au Canu Info de nous accueillir. Nous, on a un collectif de 4 avocates qui avons eu envie de partager nos connaissances et nos expériences juridiques et donc d'essayer de donner des billes pour mieux comprendre et appréhender le monde du droit et de la justice avec à chaque fois l'idée de partir sur un thème précis. Et aujourd'hui, on va parler de la séparation parentale.
Alors, de quoi allons-nous parler exactement ? La présente émission va se concentrer exclusivement sur la séparation d'un couple non marié qui a eu des enfants et sur les conséquences pour ces enfants. On ne parlera pas des situations de divorce, car dans ce cas, l'avocat est obligatoire. Donc les personnes qui peuvent être confrontées à une procédure de divorce seront nécessairement conseillées sur tous les points concernant les enfants. D'où notre choix de concentrer l'émission sur la séparation des couples qui n'étaient pas mariés. On va ainsi parler d'une situation malheureusement très courante et qui peut donner lieu à de nombreuses questions. Quelles questions peuvent être posées lorsque on décide de se séparer de son conjoint avec lequel on a eu des enfants ? Par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire quand on se sépare et qu'on a des enfants ? Doit-on aller voir le juge ? Peut-on aller voir le juge ? Doit-on avoir un avocat ? Et devrons-nous avoir un avocat ? C'est-à-dire, est-il préférable d'avoir un avocat ? Comment faire pour les enfants ? Comment organiser l'hébergement de l'enfant ? Les droits de visite de l'enfant ? La résidence de l'enfant ? Et qu'est-ce que la pension alimentaire ? Tous ces points seront donc abordés au cours de l'émission.
Alors du coup, la première question, c'est quand on se sépare, qu'est-ce qu'il faut organiser ? À quoi il faut penser ?
Alors, sur cette première question, une première définition déjà pour bien savoir de quoi on parle, c'est celle de l'autorité parentale, puisque c'est une notion qu'on utilise souvent. Juridiquement, l'autorité parentale, c'est le pouvoir, mais aussi les devoirs, et surtout les devoirs, des parents à l'égard d'un enfant mineur, donc jusqu'à sa majorité, avec l'idée derrière cette notion toujours de la protection de l'enfant. Le Code civil d'ailleurs définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Alors, pour illustrer, pour avoir quelques exemples de ce que ça représente en pratique, c'est toutes les décisions qui sont prises par les parents au niveau médical, par exemple, sauf bien sûr les soins en urgence, la gestion des biens d'un enfant mineur, la question de la scolarité, de l'éducation de l'enfant, avec cette spécificité s'agissant de l'autorité parentale sur l'éducation, qui est que les parents, et y compris les parents séparés, ont tous les deux le droit de surveiller la scolarité de leur enfant et d'être informés directement par l'établissement scolaire, notamment des résultats scolaires, donc envoi des relevés de notes, puisque c'est une question qui se pose souvent en pratique. Les deux parents qui exercent l'autorité parentale ont tous les deux, le droit d'être informés et de recevoir les relevés de notes de leur enfant. Alors, toujours sur cette définition de l'autorité parentale, également rappeler que le principe, c'est l'exercice commun de l'autorité parentale, c'est-à-dire que quelle que soit la situation des parents, qu'ils soient séparés ou non, que l'enfant vive uniquement avec un parent ou avec les deux parents vont toujours exercer en commun l'autorité parentale par principe, c'est-à-dire qu'ils vont toujours participer et tous les deux être informés de tout ce qui relève de l'autorité parentale. Et ce n'est que par exception qu'on a un exercice exclusif de l'autorité parentale, mais il s'agit d'une hypothèse rare puisque c'est déjà par décision de justice, donc il faut qu'un juge intervienne et estime que c'est nécessaire, et surtout par rapport à l'intérêt de l'enfant. Donc on pense notamment aux hypothèses de violence ou de désintérêt mais caractérisé, manifeste, d'un des parents par rapport à son enfant.
S'agissant maintenant du lieu de résidence des enfants, c'est une des questions que les personnes non mariées peuvent se poser lorsqu'ils ont des enfants et qu'ils décident de se séparer. On a tendance à parler, dans le langage courant, de garde, la garde des enfants. Qui va avoir la garde des enfants ? En réalité, il faut parler de résidence. Dans les textes de loi, il s'agit d'ailleurs de résidence des enfants et non de garde. On peut, pour s'en souvenir, penser que, en parlant de résidence, on met l'enfant au centre des questionnements. Tandis que la garde, c'est les parents qui vont avoir la garde. Ça concerne les prérogatives des parents. Lorsque deux parents se séparent, il faut porter un intérêt tout particulier à l'enfant et donc se pose la question de sa résidence. La question à laquelle nous allons tenter de répondre est celle de l'organisation de la résidence des enfants en cas de séparation des parents. Il y a en quelque sorte deux modèles concernant l'organisation de la résidence des enfants. Une résidence fixée chez l'un des deux parents ou une résidence alternée. S'agissant tout d'abord de la résidence fixée chez l'un des deux parents, lorsque les parents décident de fixer la résidence de l'enfant chez un des deux. Il est possible d'organiser, heureusement, un droit de visite et ou un droit d'hébergement pour l'autre parent. Le cas le plus courant, dans le cas le plus courant, on parle d'un droit de visite et d'hébergement classique. C'est-à-dire que le parent qui n'héberge pas de façon continue l'enfant va avoir un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. C'est donc le droit de visite et d'hébergement classique. Mais il est également possible d'élargir ce droit de visite, par exemple en indiquant, en se mettant d'accord pour que le parent qui n'a pas la résidence de l'enfant puisse visiter son enfant le mercredi, puisse également héberger son enfant le mercredi soir. Voilà, là on parle de droit de visite et d'hébergement élargi. Si la situation est plus compliquée, il est possible également de fixer un droit de visite simple. Plusieurs motifs peuvent mener à cette décision. Par exemple, lorsque l'hébergement n'est pas possible, lorsque deux personnes se séparent et que un des parents quitte le domicile familial, il est possible que ce dernier, dans un premier temps, n'ait pas la possibilité d'héberger son enfant. Des motifs également liés aux rapports qui peuvent être compliqués entre le parent qui n'a pas la résidence et les enfants. La situation peut également être plus compliquée lorsque un des parents manifeste une certaine fragilité et qu'il n'est peut-être pas préférable que ce parent ait un droit d'hébergement. Dans les situations encore plus délicates, le droit de visite peut être fixé dans un lieu neutre, c'est-à-dire hors du domicile des deux parents, mais dans une association et en présence, si nécessaire, d'une tierce personne. Il y a des situations en effet qui sont délicates et où la présence d'un médiateur, d'une personne extérieure à l'environnement familial, une personne professionnelle peut être nécessaire pour maintenir les liens entre ce parent et les enfants. Par exemple, lorsqu'il y a eu des violences entre un parent et un enfant, ou alors une situation aussi qui arrive lorsqu'un parent a été absent pendant un certain temps et qu'il peut paraître primordial qu'une autre personne soit présente dans le cadre des visites pour pouvoir rétablir la confiance entre ce parent absent ou mettre des limites quand la situation devient compliquée. Désormais, le deuxième cas, celui que j'avais annoncé, le cas où la résidence est alternée, c'est-à-dire le cas où l'enfant va passer une semaine chez la mère, puis une semaine chez le père et la moitié des vacances chez l'un et l'autre des parents. Il est aussi possible, dans ce cadre-là, d'envisager un autre type de résidence alternée, par exemple 15 jours, 15 jours. Donc voilà les deux grands modèles de résidence des enfants lors de la séparation des parents. Soit on fixe la résidence chez l'un des parents, mais on aménage quand même le droit de visite et d'hébergement chez l'autre, soit on s'accorde à instaurer une résidence alternée.
Alors, l'autre question à régler quand des parents se séparent, c'est la question de l'argent. Une question qui est bien évidemment assez sensible et qui est souvent finalement un peu le point de désaccord entre les parents. Alors, pourquoi il y a la question de l'argent à régler? Parce que, ça on le sait, dans le code civil, ce qui est prévu, il y a un certain nombre d'obligations alimentaires qui sont prévues. Et il y a notamment une obligation alimentaire d'un parent à l'égard de ses enfants. Alors, généralement, cette obligation alimentaire, elle est évidente, on va dire, quand les parents sont toujours ensemble. Les parents subviennent tous les jours aux besoins de leurs enfants, ça pose pas de difficulté, mais quand les parents se séparent, se pose alors la question de comment va se régler cette obligation alimentaire, alors qu'il y a assez souvent un parent chez lequel ne vivent pas les enfants, puisque comme l'a expliqué Madeleine, il y a des cas où la résidence des enfants est fixée chez un des parents, ce qui veut dire que quasiment les enfants ne sont chez l'autre parent qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Donc dans ces cas-là, il faut prévoir le règlement de ce qu'on appelle une pension alimentaire. Donc c'est une somme d'argent qui va être réglée par un parent à l'autre parent pour que ce parent puisse subvenir au quotidien aux besoins de ses enfants. Alors la question c'est comment elle est déterminée cette pension alimentaire. Les textes de loi prévoient qu'elle est déterminée en fonction des ressources du parent qui n'a pas la résidence des enfants et en fonction des besoins de l'enfant. Alors ce qu'on entend par ressources des parents, ça va être, il faut le savoir, le revenu imposable. Je précise ça puisque souvent quand on arrive devant le juge, les gens vont par exemple expliquer qu'ils ont un revenu net à payer de temps ou alors qu'ils touchent tant tous les mois et puis après il y a la prime, le 13e mois, etc. Mais bon, c'est bien le revenu qui apparaît sur la feuille d'imposition comme revenu imposable qui est pris en compte par le juge. Et puis les besoins de l'enfant, c'est les besoins de la vie de tous les jours, mais ça peut être parfois des besoins un petit peu particuliers. Il faut savoir que pour fixer la pension alimentaire, il existe un barème qui a été mis en place par le ministère de la Justice et qu'on trouve sur Internet. Il faut savoir que ce barème, c'est important de le préciser, c'est un barème qui n'est pas obligatoire et qui ne s'impose pas notamment aux juges et qui est vraiment un barème indicatif et qui ne tient pas compte des particularités de chaque situation, mais ça peut aider un peu les gens quand ils ne savent pas trop en fonction de leur revenu, qu'est-ce qu'ils devraient payer comme pension alimentaire en fonction du nombre d'enfants et puis des modalités de résidence. Ça leur permet quand même d'avoir une petite idée pour pouvoir discuter directement entre eux. Mais bon, la pension alimentaire, encore faut-il avoir les moyens de la payer. Donc il est bien évident que si le parent qui n'a pas la résidence des enfants est pas en mesure financièrement de payer une pension alimentaire parce que par exemple, il perçoit uniquement le revenu de solidarité active, à ce moment-là, il n'est pas obligatoire de prévoir une pension alimentaire. Et dans ce cas-là, il faut savoir que c'est souvent la CAF, en fonction de la situation de l'autre parent, qui va un peu prendre en charge les besoins des enfants et va verser ce qu'on appelle une allocation de soutien familial. Mais bon, c'est quand même dans des conditions un petit peu précises. Ce qui se pose aussi comme question quand on parle de la question de la pension alimentaire, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a des frais exceptionnels pour les enfants ? Parce que la pension alimentaire, c'est quelque chose qui est fixé, c'est un montant qui est versé tous les mois, mais il peut y avoir des frais exceptionnels, par exemple les enfants qui vont faire un voyage scolaire, ou qu'il va y avoir des soins médicaux qui sont pas remboursés par la sécurité sociale ou par la mutuelle. On pense souvent, c'est ce qui revient assez souvent, c'est les enfants qui ont besoin à un moment donné à l'adolescence d'un appareil dentaire, comment on fait dans ces cas-là ? Là, il y a deux possibilités. Soit on a une décision de justice qui a prévu que ces frais-là, ces frais exceptionnels, s'ils sont décidés en tout cas par les deux parents, sont partagés par moitié. Donc ça vient en plus de la pension. Soit il n'y a pas de décision et à ce moment-là, il faut que les parents se mettent d'accord parce que si un parent veut que l'autre prenne en charge certains frais que l'autre veut pas, s'il n'y a rien qui l'y oblige, il n'est pas obligé de le faire et il peut très bien dire « moi je paye la pension alimentaire » et c'est tout. Et puis la dernière question qui se pose sur cette question de la pension alimentaire, souvent c'est une question qui revient, c'est jusqu'à quand on règle cette pension alimentaire ? Qu'est-ce qui se passe quand les enfants deviennent majeurs ? Alors, pendant la minorité de l'enfance, c'est évident que donc les deux parents doivent contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants. Pour les enfants majeurs, le critère le plus connu, c'est la poursuite d'études. Ça veut dire qu'effectivement, tant qu'un enfant majeur poursuit des études et est à la charge d'un de ses parents, l'autre doit continuer à payer une pension. Mais c'est pas la seule, c'est pas la date limite non plus, la poursuite d'études, parce que on a quand même, on sait, ça devient de plus en plus difficile quand on sort des études de trouver tout de suite du boulot. Donc il y a beaucoup d'enfants majeurs qui ont un certain âge et qui ont fini leur cursus, mais qui ont pas tout de suite de travail. Et donc une pension alimentaire peut continuer à être due par l'autre parent si l'enfant majeur, il est toujours pas autonome financièrement. Il est à la charge d'un de ses parents.
Ça marche. Et justement, une fois qu'on a à peu près travaillé sur toutes ces questions-là, quels sont les moyens pour parvenir à un accord ?
Alors, il y a plusieurs moyens pour parvenir à un accord parce que il faut savoir qu'on n'est pas, comme on le disait tout à l'heure, on n'est pas obligé, et on verra, on n'est pas obligé d'aller devant un juge, et que dans ce domaine familial qui est quand même une question, un domaine délicat, c'est quand même bien si finalement les parents se mettent d'accord. Et d'ailleurs, ça arrive quand même assez souvent que les gens arrivent encore à discuter même s'ils se séparent et à essayer de trouver des solutions ensemble. Mais si le dialogue est compliqué, il y a plusieurs possibilités. Il y a tout ce qui concerne la médiation familiale. Alors la médiation familiale, c'est un processus en fait de discussion avec un professionnel. Donc c'est une personne qui est spécialement formée à faire discuter les gens ensemble et à essayer de trouver des solutions. Et donc voilà, c'est des entretiens qui ont lieu. D'abord des entretiens d'information, après des entretiens de médiation où on va essayer, les parents vont essayer directement avec un médiateur de trouver un accord et ça peut aboutir à la signature de protocole d'accord. Par contre, il y a aussi d'autres possibilités, c'est que si chacun des parents, quand ils se séparent, a chacun un avocat, les avocats sont aussi formés sur les questions de discussion et de médiation, et on peut essayer de trouver un accord. On fait souvent ce qu'on appelle des réunions à quatre, ça veut dire qu'on a, il y a les deux parents et les deux avocats, et on essaie de trouver des solutions ensemble, avec parfois des techniques un peu particulières, parce qu'on est notamment de plus en plus formés dans ce qu'on appelle le droit collaboratif, qui est une méthode un peu de discussion et de négociation qui nous vient du Canada, et qui peut permettre justement de parvenir à un accord, même si au départ la situation était tendue. Simplement pour une petite information pratique pour les gens qui voudraient avoir justement plus de renseignements sur ces modes de règlement amiable des conflits, c'est comme ça qu'on les appelle, le barreau de Lyon, donc c'est l'institution qui représente les avocats à Lyon, a mis en place, a créé ce qu'on appelle un centre de justice amiable des avocats, et c'est un lieu où les gens peuvent venir obtenir des informations pratiques et être orienté sur toutes les possibilités de règlement amiable des conflits. Et il y a deux permanences, deux après-midi par semaine, donc c'est gratuit. Il faut simplement téléphoner, peut-être prendre rendez-vous pour avoir des informations là-dessus.
Et donc, si par exemple qu'une solution amiable est trouvée, ou est-ce que ou lorsqu'on a trouvé un accord, est-ce qu'il faut obligatoirement aller devant un juge, et comment est-ce qu'on peut s'y prendre?
Alors, pour répondre à cette question, d'abord se pose la question vraiment de quel juge va être amené à trancher sur ces questions-là. Alors, c'est le juge aux affaires familiales, qui est un juge spécialisé, chargé des questions relatives au divorce ou à la séparation des couples non mariés. C'est un juge qu'on rencontre en principe seul, sauf formation collégiale, et à huis clos. Donc, il faut bien savoir que c'est un juge donc aux affaires familiales spécialisé, et non pas un juge pour enfants, même si ce juge va être amené à regarder quel est l'intérêt de l'enfant, quelle est la situation de la famille par rapport à l'enfant. Mais ce n'est pas un juge pour enfant qui, lui, est spécialisé plutôt pour les problèmes de l'enfance, que ce soit au niveau pénal ou au niveau de la protection de l'enfance en danger. Alors, autre question aussi, c'est non seulement quel juge, mais où est-ce qu'on se rend, sachant que chaque tribunal est responsable d'affaires sur un ressort géographique, sur un territoire. Alors ici, le tribunal, le juge qui va être amené à trancher l'affaire, c'est le juge du lieu de résidence habituel des enfants, ou de l'enfant s'il n'y en a qu'un, et pas celui des parents. Donc c'est bien ce juge-là qui va décider de l'affaire. Devant le juge, on a deux possibilités. Soit les parents ne sont pas d'accord, et dans ce cas-là, le juge va prendre les deux positions, entendre les deux, et va ensuite rendre une décision, donc trancher entre ces deux positions. Soit, autre possibilité, c'est bien sûr la meilleure, les parents sont d'accord sur l'organisation de la situation familiale, et le juge va homologuer cet accord entre les parents dès lors qu'il estime que cet accord respecte toujours l'intérêt de l'enfant. Alors, pour répondre maintenant à la question, est-ce qu'il est obligatoire d'aller devant un juge? Alors non, il n'est pas obligatoire d'aller devant le juge, notamment si les parents sont d'accord. Mais première chose, il est toujours plus sûr d'avoir un jugement qui fixe les choses, notamment pour avoir un cadre de référence en cas de difficulté, sachant que dès lors qu'on s'entend et qu'on arrive à se mettre d'accord sur les choses, c'est ce principe-là qui va prévaloir, et ce n'est qu'en cas de difficulté ou s'il y a une incertitude qu'on va se référer au jugement. Et aussi, deuxième mais, c'est que parfois un jugement est exigé, et notamment de la CAF, pour le versement des allocations familiales et de certaines prestations sociales, et notamment le RSA. Donc c'est une exigence qu'on rencontre souvent. Et puis, dernière petite observation, c'est simplement attirer votre attention sur le fait que dans les critères que va prendre en compte le juge dans sa décision, il va regarder la pratique et ce qui a pu être mis en place par les parents avant qu'ils viennent devant lui. D'où l'importance, tout d'abord, avant d'organiser les choses et de les mettre en place, peut-être d'en discuter et de prendre différents conseils sur ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est favorable de faire par rapport à l'intérêt de l'enfant, et surtout bien faire attention, si on n'est pas d'accord, à ne pas mettre en place quelque chose qui ne satisfait pas les parents ou qui ne correspond pas aux besoins de l'enfant, pour ensuite aller devant le juge demander autre chose, puisque le juge va, dans les critères sur lesquels il va trancher, prendre en considération la pratique, donc ce qui existe au moment où on se présente devant lui.
Alors, quelles sont les informations pratiques qu'il faut avoir en tête lorsque on souhaite aller devant le juge? Tout d'abord, pour saisir le juge, il convient de déposer une requête. Il est possible de déposer une requête avec ou sans avocat. Comme il a été dit au début de cette émission, les parents qui n'ont pas été mariés peuvent aller devant le juge sans avoir recours à un avocat. Si on fait le choix de ne pas prendre un avocat, il convient d'aller au greffe du tribunal de grande instance, et plus particulièrement au greffe de la chambre de la famille, qui vous transmettra alors un formulaire que vous devrez remplir et qui vous transmettra toutes les informations nécessaires que vous devrez savoir pour mener à bien cette procédure devant le juge des affaires familiales. Il est possible de déposer une requête seule ou conjointe. C'est-à-dire que si les deux parents se mettent d'accord sur les mesures, il est possible de faire une requête ensemble. Par contre, s'il y a un désaccord, il est aussi tout à fait possible de déposer une requête seule. S'il y a une saisine du juge, il est important de constituer un dossier et de constituer un dossier avec des pièces. Il faut toujours pouvoir justifier ce qu'on soutient, ce qu'on demande. S'il y a un litige avec l'autre parent, il est d'autant plus nécessaire de constituer un dossier solide pour justifier sa position. C'est-à-dire qu'il vous sera bien conseillé d'apporter plusieurs attestations de proches, c'est-à-dire la famille, c'est-à-dire les amis, c'est-à-dire aussi, vous pouvez aussi demander aux professeurs qui connaissent l'enfant, les médecins qui connaissent l'enfant, toutes les personnes qui sont à même de bien pouvoir connaître la situation familiale. Notamment, il faudra apporter de nombreuses pièces financières pour pouvoir justifier d'une demande de pension alimentaire. Il peut être nécessaire et utile d'avoir un avocat dans deux situations, à notre sens, lorsqu'il y a un désaccord et lorsqu'il y a un doute sur les mesures décidées. C'est-à-dire que lorsque deux personnes ne sont pas d'accord, c'est toujours utile d'avoir une personne, un tiers, donc ça peut être donc l'avocat, qui est à même de pouvoir bien défendre les intérêts de cette personne. Il est aussi utile de prendre un avocat lorsqu'on n'est pas sûr du bien fondé, lorsqu'on n'est pas sûr des mesures qui ont été prises jusqu'à présent. Comme disait Sophie, lorsqu'on passe devant le juge regarde la pratique. Or, si on n'est pas à l'aise avec la pratique qui a été instituée depuis la séparation, il faut pouvoir prendre un avocat pour pouvoir au mieux transmettre, communiquer sur ce qui nous paraît le mieux pour l'organisation familiale. Aller devant le juge, c'est un moment important. Et une fois qu'un jugement a été pris, il n'est pas évident de revenir sur les mesures qui sont fixées dans ce jugement.
Juste pour compléter, pour savoir justement sur le passage devant le juge, il faut savoir, parce que c'est quand même important, que c'est une audience qui se passe à huis clos. C'est une procédure aussi qui est orale, donc ce qui compte, c'est, bon, on amène les pièces, etc. Mais quand on est devant le juge, ce qui compte, c'est ce qu'on dit à l'audience. Donc ça veut dire que quand on n'est pas à l'origine de la saisine du juge, ça veut dire quand on n'a pas soi-même déposé la requête, attention, quand on reçoit une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, il faut bien aller à l'audience, parce que si on ne va pas à l'audience et qu'on n'est pas représenté à l'audience, on n'a pas pu faire valoir ses arguments, donc c'est important de le savoir.
Eh ben, on va se faire une petite pause musicale et on va écouter Marilyn Rambeau et ce sera le morceau Zouk Machin.
Alors une fois qu'on a décidé de saisir le juge, on sait que ça peut prendre du temps. Qu'est-ce qu'on peut faire en cas d'urgence ?
Ben effectivement, c'est une question qui est importante parce qu'il faut savoir qu'à Lyon en tout cas, donc je ne vais pas parler pour toute la France, même si je sais qu'il y a plein d'autres villes où c'est compliqué, il y a une réalité qui est quand même importante, c'est de savoir qu'entre le moment, enfin si la situation est compliquée, qu'on n'a pas pu trouver d'accord et qu'on décide d'aller saisir un juge pour faire fixer et organiser la séparation, entre le moment où on saisit le juge et on dépose sa requête et le moment où il va y avoir par l'audience et même la décision du juge, il peut se passer parfois presque un an. C'est une réalité qui est compliquée, en tout cas à l'heure actuelle, au tribunal à Lyon, en tout cas le tribunal qui concerne les affaires familiales, parce qu'il y a énormément d'affaires, parce qu'il n'y a pas assez de juges. Voilà, c'est un problème qui traîne depuis des années et qui évidemment ne s'améliore pas. Et donc, quand il y a une urgence, même si au bout d'un moment, tout devient urgent, mais il y a des urgences encore plus urgentes, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Alors, des urgences, ça va être, par exemple, quand il va y avoir des violences conjugales, quand il va y avoir des parents qui se sont séparés, et puis un parent qui empêche l'autre parent de voir ses enfants, qui lui accorde aucun droit de visite et d'hébergement d'un commun accord. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Il faut savoir qu'il existe donc des procédures d'urgence. Alors, il y a ce qu'on appelle les référés, et il y a aussi une procédure qui est assez connue parce qu'elle est née d'une loi de 2010, c'est l'ordonnance de protection, là c'est en cas de violence conjugale. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait un peu long, mais il faut savoir que tout ça, ça existe, mais qu'il faut remplir des conditions et que de toute façon, quand on est dans des situations aussi compliquées, il ne faut pas hésiter à se tourner vers des associations, vers des avocats, mais en tout cas vers des professionnels pour être assisté dans ces démarches.
Et une fois que le juge s'est prononcé, puisque c'était à ses débuts d'aller devant lui, quelles sont les conséquences d'une décision du CIR qui organise la séparation? Autrement dit, qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas la décision du juge?
Alors, il faut distinguer deux choses pour ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement. Si le parent qui a la résidence habituelle des enfants à son domicile, donc là où les enfants vivent, ne respecte pas le jugement, ça peut être constitutif du délit de non-présentation d'enfants, donc un délit prévu par le code pénal et pour lequel on peut être condamné devant un tribunal correctionnel. Autre conséquence très pratique également, ça c'est du côté du parent qui n'exercerait pas le droit de visite qui a été prévu par le jugement, c'est tout simplement qu'avec le temps, l'autre parent risque de demander au juge, puisqu'on peut toujours demander au juge de réexaminer une situation dès lors qu'il y a un enfant mineur qui est concerné, l'autre parent risque de demander au juge de supprimer ce droit de visite pour le parent qui ne l'exerce pas ou qui ne le respecte pas selon les modalités qui ont été prévues par le jugement. Deuxième aspect, c'est s'agissant de la pension alimentaire. Là, si le parent qui doit payer cette pension alimentaire, donc selon le jugement, ne respecte pas cette obligation, il y a deux possibilités d'action pour l'autre parent, deux possibilités qui sont cumulables. Première chose, c'est tout d'abord, ce parent a besoin éventuellement de l'argent pour les besoins de l'enfant, et donc il va aller chercher l'argent si l'autre parent ne le respecte pas, en demandant ce qu'on appelle une mesure d'exécution forcée. Donc très concrètement, il va demander un huissier de justice, ou alors la CAF va faire cette démarche, d'aller chercher l'argent soit sur le salaire du parent qui ne respecte pas, ou en tout cas sur les revenus de ce parent. Et deuxième conséquence, en cas de non-paiement de la pension alimentaire, c'est toujours au niveau pénal, puisque le fait de ne pas respecter l'obligation alimentaire pour son enfant, donc de ne pas payer la pension alimentaire, est également constitutif d'un délit qui est l'abandon de famille. Donc là encore, le parent peut déposer plainte auprès de la police, et le procureur peut décider de poursuivre suite à cette plainte, et un tribunal correctionnel peut prononcer une condamnation donc pour abandon de famille. Pour résumer, ce qu'il faut savoir, c'est que donc le fait de ne pas respecter un jugement du juge aux affaires familiales peut avoir des conséquences, et des conséquences graves pour le parent qui ne respecte pas. Et sachant aussi que par contre, s'il n'est pas possible pour ce parent de respecter ce jugement parce que sa situation a évolué, parce que la situation de l'enfant, de la famille a évolué d'une façon générale, il ne faut pas non plus rester coincé avec ce jugement qui ne correspond plus donc à sa situation, et il ne faut pas hésiter à ressolliciter le tribunal, le juge, pour faire modifier donc les dispositions.